Retour à la politique avec vous, Pierre Veil.
Oui, Patricia, le journal de la semaine, les événements marquants. Et ce matin avec nous, Alexandra Schwarzbrod, qui est directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Et Benjamin Sportouche, journaliste politique à L'Express. Bienvenue Benjamin.
Bonjour.
Foire d'empoigne au Parti Socialiste cette semaine en à peine 5 jours. On a eu les critiques acerbes lancées par Martine Aubry contre le duo Valls-Hollande. L'abstention de 39 députés socialistes, dont les ex-ministres Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, Delphine Bateau lors du vote de la partie recette du budget. Manuel Valls, qui voudrait créer une maison commune des progressistes, s'ouvrir au centre et pourquoi pas changer le nom du Parti Socialiste. Refus catégorique de poids lourds comme Claude Bartolone ou Jean-Christophe Cambadélis. Il y a le feu au Parti Socialiste, Alexandra ?
Oui, c'est surtout affligeant. On se croirait un peu dans la cour de l'école, là, cette semaine. Hein. Ça fait un peu peur. Ce qui est clair, c'est qu'on est entré dans la première étape en vue du congrès qui va avoir lieu entre 2015 et 2016. Là, chacun essaye de se positionner en vue, premièrement, du congrès et ensuite des prochaines élections présidentielles. On voit bien que deux camps se sont en train de se former à gauche. Hein. Un camp autour des frondeurs et avec Martine Aubry qui vient d'en prendre la tête cette semaine, et un camp autour de Manuel Valls. Et manifestement, ça a l'air de lui réussir. Hein, si j'en crois les derniers sondages, Manuel Valls résiste bien à la morosité ambiante, hein, finalement, parce que tout le monde à gauche est en train de plonger. Lui résiste, il est toujours en tête. Donc il a compris que ce rôle de réformateur en chef était assez lui convenait et le positionnait assez bien pour une alternance à gauche aux prochaines élections.
Benjamin Sportouche, c'est la déliquescence au PS ?
Oui, en tous les cas, c'est un parti socialiste à l'agonie. Hein. On a deux choses qui viennent se compléter. Une ambition collective qui est quand même très mal définie. C'est ça qui est un peu désespérant. Hein. C'est-à-dire pendant 10 ans, on a eu un parti socialiste dans l'opposition. On pensait qu'il avait arbitré ses lignes de fracture. En fait, pas du tout. Il est en congrès permanent, ce parti socialiste. Il n'attend même pas le prochain pour le faire. Il est en congrès depuis l'élection de François Hollande et il l'avait commencé pendant la primaire. Donc finalement, on pensait que tout était arbitré et ça ne l'est pas. Et à cette ambition collective qui est mal définie, on a des ambitions individuelles qui s'expriment. Celle de Manuel Valls, celle de Martine Aubry, qui sur votre antenne a dit lundi qu'elle n'était pas intéressée par Matignon. Mais bon, on n'est pas non obligé de la croire et elle peut aussi garder dans un coin de sa tête d'autres ambitions présidentielles. Donc on a un peu ce fourre-tout, vous voyez, au PS, où on n'a pas d'ambition collective, on ne sait pas vers où exactement on va collectivement. Vous avez un affrontement idéologique et puis des ambitions collectives. Sur l'affrontement idéologique, par exemple, il y a un débat très intéressant sur l'universalité. Est-ce que l'universalité des allocations, c'est la véritable égalité ? Mais ça, le PS aurait peut-être dû s'y atteler avant d'arriver au pouvoir. Il y réfléchit maintenant. Est-ce que la véritable égalité, c'est ne pas moduler les allocations chômage, c'est ne pas moduler les allocations familiales en fonction des revenus ? Et on pensait que les frondeurs auraient pu être d'accord avec cela. Et bien, visiblement, ils ne le sont pas sur une posture eux-mêmes idéologique.
Alexandra Schwarzbrod.
Je suis entièrement d'accord. L'universalité de la protection sociale, c'est un sujet absolument passionnant. Passionnant. Et il y a plein de choses à raconter. C'est un beau débat. Et tout ça est balayé par des querelles d'hommes et de femmes qui ne voient que l'échéance, les prochaines échéances électorales.
Mais il y a un risque de scission ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que ce camp-là va continuer à s'écharper. C'est ça qui est triste, c'est que là, il reste quand même. On se dit, et dire que ça va durer comme ça encore 2 ans, 2 ans et demi. Je pense qu'ils vont continuer à s'écharper avec des camps qui vont se former. Scission, non. Je suis même pas sûre qu'ils aient le courage, si je puis dire, d'aller jusque-là. Non, je ne pense pas.
Benjamin Sportouche.
Le congrès de Reims a montré que même un parti en composition comme le PS pouvait résister. Hein. À ce moment-là, on se disait qu'il en était terminé du Parti Socialiste, souvenez-vous, et finalement, ils ont remporté les élections présidentielles et législatives. Donc, on ne peut pas dire que ce parti disparaît, mais il est vraiment dans une remise en question totale. Mais parce qu'en Europe aussi, les partis socialistes de la social-démocratie est en train de se réinterroger sur ce qu'elle veut exactement. Mais on a un sentiment d'alali. C'est ça qui est inquiétant. Quand vous entendez Jean-Christophe Cambadélis, dans son appel à l'unité des socialistes, dire « il faut qu'on soit tous réunis pour la fin du quinquennat, mais nous ne sommes qu'à la moitié ». Et là, on se dit, mais ils sont eux-mêmes désemparés. Ils ne savent pas où ils vont et il n'y a pas ce leadership qui leur permet de mettre un terme à ces affrontements internes.
Et quand on entend Rebsamen ce matin parler d'échec, le ministre du Travail, d'échec dans la politique du chômage, on voit bien qu'eux-mêmes sont... Alors, soit c'est une erreur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une erreur de langage ou est-ce que son interview a été relue par Matignon, avalisée avec ce mot-là? C'est quand même terrible, parce que là, on a un sentiment d'impuissance terrifiant. Et ce qui est terrible, c'est que tout ça, ça ne fait que le jeu du Front National. Évidemment, quand on voit un constat d'échec comme ça, ça fait le jeu du Front National. Donc, ça fait un peu peur.
Alors, à droite, à l'UMP, il y a aussi de la surenchère avec le duel Sarkozy-Juppé dans la perspective de la primaire pour la présidentielle de 2017. Alain Juppé a dit cette semaine qu'il veut deux fois moins de parlementaires. Nicolas Sarkozy était en meeting à Nice mardi. Il a affiché des propositions très fermes en matière d'immigration avec cette phrase. Les Français veulent rester en France. Nous voulons bien accueillir les autres, mais nous ne voulons pas changer profondément notre façon de vivre. Surenchère, dangereuse, excessive, Benjamin Sportouche.
Alors écoutez, finalement, à droite, on a une ligne qui se dessine, hein, c'est plutôt celle du libéralisme économique, et puis sur l'immigration aussi, on a des propos plus ou moins modérés, mais il n'y a pas non plus le social d'un côté, le séguinisme d'un côté, et l'hyper ferme de l'autre. Donc ils sont plutôt sur cette ligne-là, avec des nuances d'application, mais il va y avoir une concurrence de personnalité, et ça, c'est un peu aussi le pendant, j'allais dire, pervers de la primaire. C'est-à-dire qu'on est en présidentielle permanente maintenant dans ce pays. Et qu'à droite, on va avoir un affrontement de personnalité qui commence 2 ans avant même la primaire. Ça n'était pas encore le cas au PS. Souvenez-vous, il y avait encore... on ne parlait pas vraiment, la primaire n'était pas organisée. Là, on était dans une primaire et on va avoir un choc de personnalité. Et franchement, je ne suis pas certain que ceux qui sont en lice aujourd'hui le soient encore dans 6 mois, 1 an ou 2 ans.
Et je rappelle en couverture de l'Express cette semaine, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, et ce titre « Qui va flinguer l'autre ? Cuba et grande manœuvre ?» Alexandra Schwarzbrand.
Alors là, moi, je suis moins d'accord avec Benjamin. Je pense qu'il y a les discours, quand même, on le sent, frôlent, empiètent sur les terrains de l'extrême droite. Hein. Nicolas Sarkozy a eu des propos très, très raides sur l'immigration lors d'un de ses derniers colloques. Et je pense que la tentation va être très, très grande de la droite, qui existe déjà, hein, d'aller sur le terrain de l'extrême droite. Qui va flinguer l'autre ? Sarkozy, manifestement, ça ne marche pas, son retour. Hein. Ça ne marche pas. Je crois que les Français n'en veulent plus, ne le supporte plus. Et Juppé, là-dedans, a peut-être une infime chance, entre guillemets, c'est celle, peut-être, à un moment, vu le boxon à gauche, peut-être d'attirer certains électeurs de gauche-centre qui peuvent se dire que finalement, dans le paysage actuel, c'est peut-être le moins pire. Donc, c'est peut-être la petite chance de Juppé.
Benjamin Sportouche ?
Oui, non, juste, en effet, qu'il y ait une tentation d'aller vers l'extrême droite, elle existe au sein d'une petite partie de l'UMP de ses dirigeants, mais globalement, l'UMP sait aussi qu'elle veut diriger avec le centre, qu'elle a un François Bayrou maintenant qui lui tend la main parce que le Parti Socialiste s'est détourné de lui, et on l'a vu, ce qu'a dit Manuel Valls, c'est terrible quand même, hein. La réelle majorité de ce pays aujourd'hui, elle est plutôt vers le centre et vers François Bayrou, à qui le PS a renoncé à tendre la main. C'était en 2012, donc la droite a aussi cet enjeu de ne pas renier son centre et de s'éloigner de cette extrême droite qui en fait ne veut que sa perte, et Marine Le Pen fait tout aussi pour que Nicolas Sarkozy ou qu'une personnalité de droite ne se dégage pas pour un leadership.
Autre événement cette semaine, la mort du PDG de Total, Christophe de Margerie, dans le crash de son jet privé à Moscou. Beaucoup de dommages à ce capitaine d'industrie, c'est une rare unanimité. Est-ce qu'on peut dire que c'était plus qu'un patron, c'était une sorte d'ambassadeur de France itinérant? Certains disent qu'il était même notre véritable ministre des Affaires étrangères, Alexandra Schwarzbrand.
Je pense qu'il était même plus puissant que le ministre des Affaires étrangères, hein, qui lui demandait des contacts dans le monde arabe et même en Russie, partout. Parce que c'était quelqu'un, il faut bien voir, hein, ça faisait... Depuis 1974, il était en poste chez Total. Enfin, il en a gravi tous les échelons. Il a notamment été patron de la fameuse zone exploration-production, celle où on est au contact de tous les pays arabes. Donc, il connaissait tous les numéros 1 du monde arabe. Tous ceux qui étaient, il y a 20 ans, 30 ans, fils d'eux, neveux d'eux, sont devenus les tiennes aujourd'hui, les reines des plus puissants pays arabe de la zone. Il était assez proche de Poutine. C'était d'ailleurs hallucinant de voir que Vladimir Poutine lui-même lui a rendu hommage. Donc c'était à la fois un homme extrêmement puissant et personnellement assez sympathique, très jovial. Ce qui explique que beaucoup de gens est très fort pour nouer des connivences, des proximités avec tout le monde politico-médiatique, d'où cet hommage unanime.
Benjamin Sportouche.
Oui, c'est ce que dit Alexandra, qu'il connaissait très bien, mieux que moi, certainement. Moi, je l'ai vu dans quelques déplacements officiels. C'est la vraie la réalité, elle est là, elle est dans de Marjorie, c'est-à-dire que l'économique prend le pas sur le politique aussi, dans ce qui est du domaine de la diplomatie. Et il était devenu un patron français, en effet, très puissant sur la scène diplomatique. On l'a vu, les propos qu'il avait sur l'Ukraine, comme il avait appelé juste lundi Vladimir Poutine à calmer le jeu, et on avait quand même un patron d'un grand fleuron français. Et il était, même s'il y a des critiques qui étaient émises contre Total, les Français sont plutôt fiers d'avoir une grande entreprise nationale et aimeraient en avoir d'autres de cet acabit dans le monde.
Benjamin Sportouche pour L'Express et Alexandra Schwarzbott pour Libération. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin à France Inter, Patricia Martin.